Radio, radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur achat. En partenariat avec le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPORadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CPORadio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Amélie Briand, directrice performance du groupe EPSA. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Ainsi que Pascal Leroy, managing director de CEREM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail. Bonjour, bonjour Pascal.
Bonjour Alain.
Et Gilles Lavaro, rédacteur en chef adjoint de CPORadio.tv.
Bonjour, bonjour Alain.
Alors vous, cadeau. Le bricolage, on en parle aujourd'hui, non ?
Oui, tout à fait. Il s'agit de Philippe Petit, co-auteur du livre La boîte à outils de l'acheteur. Ça n'a rien à voir avec le bricolage, mais bon, troisième édition. C'est la troisième édition.
Exactement, exactement.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe, vous êtes ingénieur arts et métiers ParisTech, 15 ans d'expérience dans les achats et la vente. Sur quel secteur d'activité êtes-vous intervenu ?
L'équipement automobile, les jouets, la high-tech, l'imagerie.
Touche à tout.
Voilà. Et puis maintenant, la formation professionnelle.
Très bien. Ouais. Après avoir co-dirigé pendant 9 ans un master exécutif achat en partenariat avec Grenoble École de Management.
Belle école.
Vous managez également le programme diplômant responsable achat de la CEGOS. Vous pouvez nous en dire un peu davantage ?
Oui, donc je travaille pour un grand organisme de formation où j'anime moi-même des séminaires, des stages de formation dans le domaine des achats. Et à ce titre-là, je représentais la CEGOS comme copartenaire de Grenoble École de Management sur donc un master spécialisé exécutive. Donc ça veut dire qu'il n'y a que des personnes expérimentées, il n'y a pas des étudiants et d'autres, il n'y a que des gens expérimentés. Et actuellement, je poursuis la direction d'un programme diplômant pour la CEGOS qui existe depuis 25 ans.
25 ans. Alors, vous êtes notre invité aujourd'hui pour nous parler de ce dernier livre. C'est votre premier livre ou le dernier ?
C'est mon deuxième livre.
Et le premier s'appelait comment ?
Toute la fonction achat chez le même éditeur.
Chez Duno également. Duno. Donc là, aujourd'hui, la boîte à outils de l'acheteur. Vous êtes deux co-auteurs, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il fait, Stéphane ?
Stéphane, maintenant, il est patron de l'Executive Education de l'EDEC.
D'accord. Alors, ce livre-là, c'est quoi ? C'est un livre pédagogique ? C'est un guide pratique ? Il y a des réflexions ? C'est empirique ? Qu'est-ce que c'est exactement, Philippe ?
C'est didactique. Ça n'a pas une vocation forcément pédagogique. C'est, comme son nom l'indique, c'est une boîte à outils. C'est fait pour être utilisé. C'est pas vraiment fait pour être lu. C'est fait pour être pris comme ça. On prend au milieu, au début, à la fin. On le retourne, on le plie. C'est fait pour être utilisé comme ça.
Très bien. Voilà. Amélie, c'est comme ça.
La boîte à outils de l'acheteur, tout un programme quand même. C'est à la fois traditionnel mais ambitieux. Il n'y a ni un seul type d'achat et encore moins un seul type d'acheteur. J'ai bien envie de vous parler d'innovation en matière d'achat. Quel est, selon vous, l'outil le plus innovant que vous proposez dans votre ouvrage ?
Pour faire de l'innovation, pour moi, l'innovation, c'est comme la responsabilité sociétale. C'est tout ça, ça fait partie de l'ADN normal de l'acheteur. Comme s'il y avait des acheteurs pas innovants, puis des acheteurs innovants. Ou alors des acheteurs responsables, puis les autres, ils sont quoi ? Oui. Ils ne sont pas responsables.
Oui, ils sont irresponsables. C'est... Quelques noms peut-être d'acheteurs irresponsables. Alors, oui.
Alors ma question portait plutôt sur un outil innovant. Parce que comme c'est quelque chose, la fonction achat existe depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qui va différencier les outils qu'on connaissait avant de ceux qu'on peut trouver dans le bouquin aujourd'hui ?
Des outils innovants, il n'y a pas forcément de choses très très nouvelles. Vous savez, les achats, c'est une fonction très, très jeune. Ça a quoi ? Ça a 40 ans, allez. Et où est-ce qu'on forme les meilleurs acheteurs ? Dans les écoles, qu'on appelait avant les écoles de commerce, maintenant on dit des business schools, parce que les acheteurs font aussi du commerce. Donc les meilleures formations, les meilleurs acheteurs, les meilleurs vendeurs, on les forme au même endroit, avec les mêmes outils.
Donc aux achats... Donc ça n'a pas évolué, la formation
voilà, donc je vais vous révéler quelque chose, on n'invente pas grand-chose en fait.
Ouais.
On s'aligne...
C'est un métier pour les gens intellectuellement un peu limité, j'ai l'impression, non ?
C'est pas ce que ça veut dire forcément.
Ah bon, d'accord,
parce
j'ai mal compris.
Par ailleurs, il faut développer des réelles compétences plutôt sur le savoir-être, vous voyez, pour pouvoir justement s'imposer en entreprise, voilà.
Alors, je vais vous parler en tant qu'acheteur.
Vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Vous pouvez dire à Philippe.
On va changer de sujet. Moi, je pense qu'il est temps d'aborder le sujet des biais cognitifs, que vous abordez beaucoup, je crois, dans ce bouquin.
Enfin, beaucoup...
On est à la fois victime et bénéficiaire de ces biais. Comment est-ce qu'un acheteur peut les utiliser
Alors, en fait, tel que c'est présenté, c'est parce que c'est un. Il y a une ambiguïté dans ce genre d'outil. C'est comme les six leviers d'influence. C'est que entre l'influence et la manipulation, c'est exactement les mêmes outils, mais pas avec le même objet.
Et objectif.
Voilà. Ouais. Mais cependant, ça s'utilise de la même manière, apparemment, techniquement. Donc, toute l'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire derrière. Donc, la manière dont ils sont présentés, ces outils dits d'influence et non pas de manipulation, c'est plutôt quand je suis victime de quelqu'un qui tente de me manipuler, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, l'idée, c'est de révéler quelles sont les techniques. Puis ça n'empêche pas de temps en temps d'en utiliser un pour influencer davantage son interlocuteur. Et pas que dans le monde des achats ou de la vente. Hein. Tous ces outils-là, ce sont des outils humains qui permettent justement d'accentuer l'impact de votre communication avec un homo sapiens. Hein. Ça ne marche pas avec les animaux.
Amélie,
Vous évoquez le sujet de la performance durable. Vous pourriez nous donner votre définition de ce que c'est une performance durable pour un acheteur ?
Performance durable, c'est de la performance, forcément. Performance, ça veut dire
durable,
apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ça veut dire quoi? Apporter de la valeur, être aligné sur les orientations stratégiques de la direction N+1 dont on dépend. Durable, ça veut dire pérenne. Ça veut dire pérenne, c'est-à-dire pas uniquement, comme on le pense souvent, protéger l'environnement ou protéger les aspects sociaux, donc humains, c'est aussi protéger les revenus de sa propre entreprise. Donc c'est l'ensemble des trois qui fait que c'est pérenne et responsable.
Pascal, quel garçon responsable, Pascal ?
N'est-ce pas ? Alors, dans votre ouvrage, vous accordez beaucoup d'attention à tous les outils qui sont à disposition des acheteurs. Est-ce que vous abordez la problématique de la négociation et qu'est-ce qu'il faut faire pour conduire une bonne négociation ? Est-ce qu'il faut se préparer ? Est-ce qu'il faut définir ses limites, sa BATNA, comme on dit parfois ?
Bonne question.
C'est quoi la recette ?
Bien sûr, mais il y a un dossier en fait entier là, dans cette boîte à outils qui est consacré à la partie négociation et contractualisation, puisque ce sont les deux, c'est lié dans le processus achat. Donc les outils de négociation, c'est pareil, hein. Il y a un parallèle total entre les achats et la vente, vu d'à peu loin. Quand on se rapproche un peu, il y a quand même une asymétrie sur les informations dont dispose l'acheteur, respectivement le vendeur. Cependant, l'objectif, c'est que chacun défend les intérêts de son employeur, donc c'est ça. Voilà. Alors on dit gagnant-gagnant, sauf que les deux gagnants ne sont pas les mêmes. Il y en a un, c'est un objectif, l'autre, c'est un moyen.
Pascal ?
Alors, on parle beaucoup d'engagement en termes de RSE et comment les entreprises, au travers de leurs différentes fonctions, notamment achats, arrivent à leurs objectifs en termes de RSE. Et quels sont vos conseils pour une entreprise qui, pour un acheteur qui voudrait justement orienter ses achats vers l'atteinte des objectifs en matière de RSE ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, la difficulté, c'est d'embrasser les trois dimensions de la RSE. C'est-à-dire que quand c'est mal compris, la RSE, on dit responsabilité, ensuite on hésite entre social, sociétal. Pour le E, on hésite encore sur environnement, et du coup, paf, on fait une réduction. La RSE, on va la définir autrement, comme le fait la Commission européenne, c'est-à-dire c'est les trois P. Le P de planète, le P de people, et puis le troisième auquel on pense pas, c'est le P de, pas de pognon, mais de profit. Ce qui veut dire un peu la même chose. Ça veut dire que être responsable, c'est faire les trois. Et ça, c'est difficile. Protéger la planète à tout prix, c'est trop facile. Protéger les gens, faire respecter le travail des enfants à tout prix, au sens propre, hein, littéral, je veux dire, hein, c'est trop facile. La vraie difficulté, c'est de faire les trois en même temps. Et ça nécessite un véritable professionnalisme.
Il y a plein de patrons de PME qui ne répondent pas à des appels d'offres parce qu'ils considèrent que c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Ça prend trop de temps, ça coûte trop de sous, et on n'est pas sûr de gagner.
Alors, c'est de plus en plus difficile de le dire, hein, parce qu'il y a l'État qui veille à ça, parce qu'il y a la médiation relation fournisseur responsable là, le médiateur des entreprises, pardon, qui au travers de sa charte relation fournisseur responsable, qui veille et qui demande, pour pas dire impose de plus en plus aux entreprises de non pas systématiquement travailler, j'ai envie de dire, les yeux fermés avec une PME, mais d'au moins démontrer que dans tous leurs appels d'offres,
concernées, quoi.
Elles s'arrangent pour que même des PME puissent répondre. L'idée, c'est pas non plus de verser dans l'extrême inverse, de soit parce que le fournisseur est petit, soit parce qu'il est proche, je vais travailler avec lui. Non, c'est parce que aussi il est moins cher.
Ouais. Voilà. Et l'acheteur acheté, c'est fini ça ?
Personne vous le dira.
Mais vous êtes un spécialiste, voilà. Vous avez un œil neuf.
C'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Et de toute façon, c'est pas souhaitable. Moi, comme je dis aux gens que je forme, notamment aux directeurs achats, c'est payez bien vos acheteurs si vous voulez pas que les fournisseurs le fassent à votre place et avec votre argent. Puisqu'un fournisseur, l'argent qu'il touche vient de son client. Donc des achats.
Bon, bah écoutez, nous on va conseiller d'acheter votre bouquin en tout bien tout honneur et officiellement. Il vaut combien ce livre là ?
Pas cher.
Il vaut combien alors ?
C'est pas la question. La question c'est combien il peut rapporter.
Bon, merci beaucoup Philippe. Je rappelle le titre de votre excellent ouvrage, La boîte à outils de l'acheteur, troisième édition. Depuis quoi ? La première édition c'était il y a 4 2010.
Ans.
2010. Oui, c'est déjà chez Dunod. Merci également vous, Amélie et Pascal et Gilles aussi. Fin de ce numéro de cpradio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
Cpradio.tv vous a été présenté par Alain Marty.